reste une distance par rapport à l'anecdote de la mimétique. Il ne s'agit plus du tout de mimesis, il s'agit de symbolisme. Parce qu'en fait, tout ce que je vous dis sur la volonté que Rodin a de signifier la puissance du génie, eh bien c'est clairement ce que voulaient les symbolistes, c'est-à-dire, et là je cite un manifeste symboliste, vêtir l'idée d'une forme sensible. Vêtir l'idée d'une forme sensible, c'est un des principes même exprimés par les manifestes symbolistes des années 80, et en particulier les termes que je viens de vous dire, je les ai empruntés à Boréas, au poète Jean Boréas, qui publie dans le Figaro littéraire en 86 un manifeste du symbolisme. Et vous voyez, on ne peut pas, évidemment, c'est tentant, parce que c'est presque un jeu de mots, mais là, il va vêtir, Rodin, de cette robe de chambre, l'idée de la puissance du génie alsacien. Et personne ne l'a mieux compris que le photographe Edward Steichen, qui s'est livré à Meudon, dans la deuxième maison de Rodin, parce que Rodin, se servait de l'hôtel Biron qu'on voit aujourd'hui à Paris, qui est le musée Rodin numéro 1, si j'ose dire, il s'en servait un peu comme d'un showroom, c'est-à-dire qu'il recevait ses clients, ses amis, etc. Mais sa vie intime était à Meudon, à la Villa des Brillants, où il y a le deuxième musée Rodin, que je vous engage d'ailleurs à aller voir si d'aventure vous passez par là, parce que c'est un lieu merveilleux où se trouvent les plâtres de Rodin. C'est beaucoup plus intime que le musée que l'hôtel Biron de la rue de Varennes. Et c'est à Meudon que Steichen s'est livré devant un plâtre à des effets de nuit, de photographie de nuit, qui donnent ce que vous voyez là, c'est-à-dire cette étrange silhouette fantomatique qui figure bien justement le résultat auquel Rodin voulait parvenir. Alors vous voyez qu'on est très loin de l'hommage rendu à Pasteur. Et alors, on y est encore plus loin, je quitte Rodin, pour simplement évoquer l'hommage totalement dénué de rapport au modèle que franchit Maillol. Car ce que vous avez devant les yeux, oui, vous avez bien lu, c'est pas une femme nue, c'est le monument à Cézanne. Alors bien sûr, c'est aussi une femme nue. Mais c'est intéressant de voir qu'un peu plus tard, l'œuvre est achevée en 25, quand on demande à Aristide Maillol un monument au peintre Paul Cézanne, eh bien, lui ne se pose plus du tout la question de savoir comment il va se comporter par rapport à la ressemblance avec l'apparence physique de l'homme auquel il veut rendre hommage. Pas du tout. Il va rompre complètement avec les codes de la statue publique. Cette rupture est radicale puisqu'il choisit d'évoquer Cézanne par une figure féminine nue, allongée sur une draperie, un rameau d'olivier dans la main. Il va très loin puisqu'il se sert de cette image d'une espèce de Méditerranée, idéalisée, un hommage au classicisme cézannien, une interprétation qui, évidemment, ne peut pas faire oublier l'incompréhension qui se manifesta à l'égard du monument qui avait été commandé par un comité d'artistes pour la ville d'Aix-en-Provence. Ce monument n'a absolument pas été compris. Et cette volonté de créer finalement une allusion à un classicisme cézannien et un amour de la Méditerranée par Cézanne supposé, évidemment, était très très loin de la rhétorique traditionnelle de l'hommage. Était très loin aussi Picasso lorsque il chercha, dans les années 20, à faire un monument à son ami Apollinaire. Il chercha à faire ce monument dont vous voyez un projet à gauche qui finalement n'a jamais été réalisé. Et finalement, l'incompréhension qui s'est manifestée à l'égard de ce projet de monument en fil de fer et en tôle a fait que, se lassant, Picasso, assez âgé, recevant des amis d'Apollinaire dans son atelier, a finalement accepté de leur vendre une tête de Dora Maar, que vous voyez à droite, qui n'a vraiment strictement rien à voir avec le projet d'origine, mais qui a été installée tardivement, à la fin des années 50, dans le square Prache, qui se trouve derrière Saint-Germain-des-Prés. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il a été volé, c'est pour ça que vous avez une autre date, il a été remplacé en 2009. Mais vous voyez, il n'y a vraiment rien à voir. entre les deux monuments. Et je reviens un instant sur le projet. C'est intéressant parce que c'est un clin d'œil, très certainement, que Picasso faisait à son ami Apollinaire défunt, qui lui-même avait, dans un texte assez prophétique qui s'appelle « Le poète assassiné », paru en 1916, avait anticipé sa propre mort et fait dire à des personnages qu'il souhaitait une statue en rien. Une statue en rien. Et c'est un dialogue, donc, de quelques mots du poète assassiné. Et vous voyez qu'il est probable que Picasso se soit souvenu de cette évocation assez étrange, d'anticipation, si vous voulez, de la part d'Apollinaire, dont vous savez qu'il est mort de ses blessures suite à la guerre de 14-18, et a créé, vous voyez, un monument qui n'est pas complètement abstrait, parce qu'on peut, considérer, si vous voulez, que le petit disque qu'on voit là-haut en tôle est une tête, et qu'il y a un personnage debout, mais c'est surtout l'air qui circule entre les tôles. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette, finalement, évolution incroyable de l'hommage au grand homme. L'hommage au grand homme, finalement, soumis aux variations stylistiques du XXe siècle. Et, pardon, j'étais un peu vite, voilà. Et je voulais aborder le troisième petit volet de ce petit propos pour vous rappeler qu'il n'y avait pas seulement l'hommage au grand homme, qui avait toujours été au cœur du sens de la statuaire publique, il y avait la commémoration. Et là, mon deuxième et dernier petit texte, je voulais vous montrer quelques vers de Boris Vian, justement, sur cet aspect commémoratif qui a rebondi après la guerre de 70, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et qui nous amène aux attentats d'aujourd'hui, et qui nous amène justement à cette idée de Jeff Koons d'offrir ce fameux bouquet de tulipes en mémoire des attentats. À tous les enfants qui sont partis de sac à dos par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac à dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps, un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Donc vous voyez que quelqu'un d'aussi anti-militariste que Vian pouvait penser, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, à l'idée de la commémoration. Donc la commémoration dépasse évidemment toutes les cérémonies qu'on peut faire année après année. Et la commémoration est quelque chose qui est au cœur de l'humanité. Je suis personnellement persuadée que commémorer fait partie très fondamentalement de notre humanité. Alors, juste pour mémoire, on a commémoré énormément à la fin du XIXe siècle. Et je vous montre juste ce Gloria Victis de Mercier pour vous dire que, pour vous rappeler combien il était difficile de commémorer quand on était les vaincus. À la guerre de 70, la France a perdu la guerre. Elle a perdu même une partie de l'Alsace et de la Lorraine. Ça a été ce qu'on appelle la défaite de Sedan, la déroute, le départ de Napoléon III. Et voilà, il a fallu que les sculpteurs réfléchissent à cette chose étrange qui était de rendre gloire aux vaincus. Parce que Gloria Victis, c'est ça que ça veut dire, gloire aux vaincus. Et vous voyez, un sculpteur comme Mercier a créé un monument qui s'est répandu un peu partout en France. Là, je vous en montre deux versions. À droite à Bordeaux, dans une carte postale ancienne, à gauche à Châlons-en-Champagne, et on voit en fait un très jeune homme dans une nudité complètement idéalisée, avec les bras ouverts un peu comme un Christ, qui est porté par une grande figure féminine ailée, très forte, qui est évidemment très sérieuse, et qui est cette gloire, la gloire qui emporte les jeunes gens sacrifiés pour la guerre. Pour 14, là aussi une seule image, pour vous rappeler que la France s'est couverte de monuments aux morts après la victoire de 18, la victoire mais aussi le massacre qui a coûté la vie à un million de jeunes gens pendant la guerre. Et donc il y a même eu une obligation légale, dès qu'un village avait perdu un jeune homme à la guerre, le village était sommé de créer un monument aux morts. Alors quand c'était un village pauvre, il faisait juste une petite stèle avec une palme par exemple, ou un coq en bronze ou plutôt d'ailleurs en forme de fer, ce qui était moins cher. Et puis évidemment, plus les villes étaient riches, plus elles avaient d'ailleurs souvent perdu d'enfants, plus elles faisaient des monuments extravagants, immenses, colossaux, etc. Et là, je vous rappelle juste le cas du monument aux morts de la guerre de 14 de Landowski, parce qu'il est très tardif. Il est en fait inauguré en 1955, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il célèbre dans ce langage très académique, hein, finalement, en 1955, c'est une survivance, vous voyez, ce langage de Landowski, mais avec une monumentalité très puissante, il célèbre donc le sacrifice, et commémore le sacrifice des soldats de la guerre de 14-18. Cette commémoration ne s'est pas arrêtée là. Là, je voudrais peut-être attirer votre attention sur cette question de la commémoration aujourd'hui. La commémoration, alors que l'art contemporain a cassé les codes de la représentation de manière assez forte, et je vous donne quelques exemples assez rapidement d'audace dans ce domaine, et je commence par ce monument contre le racisme qui a été créé donc par Joseph Gert dans un lieu qui était choisi pour sa signification symbolique. En effet, l'idée a été d'abord de regrouper des étudiants de l'école des beaux-arts de Sarrebruck autour de Joachim Gers dès avril 1990. Et ces étudiants, c'était en même temps, si vous voulez, une création et une expérience, c'était une sorte vraiment d'expérience vécue par ce groupe. L'idée était de leur faire graver les noms des cimetières juifs d'Allemagne antérieurs à 1939, sur la face tournée vers le sol des pavés. En fait, il y avait une longue allée qui traverse toujours d'ailleurs, la place centrale de Sarrebruck et qui mène au château. Ce château est actuellement d'ailleurs le siège du Parlement de la Sarre, mais pendant la période la plus noire de l'Allemagne, c'était le quartier général de la Gestapo. Et cette allée contient 8000 pavés en tout. Et l'œuvre a été commencée dans l'illégalité. C'est-à-dire, c'était vraiment, je vous dis, une expérience collective menée par un prof des Beaux-Arts avec ses étudiants. Et il partait de nuit, en fait, avec ses étudiants pour retourner ses pavés, parce qu'il y avait des travaux qui étaient faits donc dans cette grande allée. Et petit à petit, eh bien, cette expérience de vie artistique a été officialisée. Et en fait, donc, le nom d'un cimetière et la date de l'inscription, comme vous le voyez à droite, ont été gravés sur les pavés, et l'œuvre a été... les pavés ont été remis en place à partir de février 91, et l'œuvre a été inaugurée en mars 93 par une exposition photographique. C'est comme une performance. En fait, ça ressemble plutôt à une performance, mais avec un résultat tangible. C'est pour ça que je vous en parle dans le cadre de la statuaire publique. Et le 23 mai 1993, la place du château a été officiellement baptisée Place du Monument Invisible. Place du Monument Invisible. Et ce nom de la place sera le seul indice visible d'un lieu que depuis les gens traversent absolument sans repère. C'est la seule trace de ce qui s'est passé là, de même que tous ces cimetières juifs ont été rayés de la carte de l'Allemagne. Il ne s'agissait pas là, vous voyez, de la Shoah, il s'agissait vraiment des cimetières qui étaient ceux de des communautés juives avant l'arrivée du nazisme. Alors pour rester un peu dans le même esprit commémoratif, autre manière, autre œuvre, celle de Peter Eselmann, à Berlin, tout près de la porte de Brandebourg, c'est le mémorial aux Juifs assassinés, qui lui est encore plus récent, puisqu'il a été achevé en 2003. C'est une œuvre qui se situe à la lisière entre architecture et sculpture. Elle est composée de 2711 stèles en béton, toutes rectangulaires, toutes de la même taille, disposées suivant un intervalle de 95 cm qui permet le passage d'une seule personne. Vous ne pouvez pas. Et les visiteurs donc cheminent dans cette espèce de mer de stèles. Je vous ai mis exprès trois visions, parce que celle qui est vue du dessus donne bien ce sentiment, vous voyez, de vague, mouvante, alors que quand on arpente entre les stèles, on perd un peu cette sensation. Le visiteur qui déambule est donc seul, forcément, même s'il a des amis avec lui, ils sont forcément derrière ou devant lui. Les stèles semblent vaciller, il y a un effet de désorientation, d'égarement, de perte du temps, de perte des repères. En fait, il crée un environnement. Le paradoxe, c'est de créer un environnement instable avec des blocs de béton tous pareils. Et ça, c'est vraiment un défi. Ça devient totalement oppressant et chaotique, autant que d'interprétation, si vous voulez, autant de manières, hein, quand je dis oppressant, chaotique, instable, c'est des manières d'interpréter le nazisme. Eisenman s'est imposé dans les années 80 aux États-Unis comme une figure importante de la déconstruction en architecture, et la grille qui a ordonné l'espace et la volumétrie du projet l'inscrivent dans une tradition conceptuelle. Et ça m'a refrappée, parce que tout à l'heure je me suis promenée dans cette extraordinaire collection où nous sommes, et en voyant Sol Lewitt, en voyant Buren, j'ai pensé à cette tradition de l'art conceptuel qui avait été, dont s'était emparé, dont finalement Eisenman s'était approprié la matrice syntaxique. En tout cas, c'est ce qui m'est apparu. Et je pense que c'est dans ce travail sur la commémoration qu'il faut comprendre l'étrange proposition de Jeff Koons. Alors, je n'ai pas voulu vous montrer l'œuvre, j'ai voulu vous montrer une captation d'écran, vous reconnaissez, hein, c'est bêtement une captation d'écran, hein, tout ce qu'il y a de plus banal de Google Images, pour vous montrer le caractère complexe de la proposition, de la compréhension, de l'implantation urbaine de ce bouquet de tulipes. Je ne parlerai pas de l'aspect socio-économique, qui mériterait pourtant qu'on en discute, mais je voulais simplement vous montrer que, voilà, il y a clairement, aujourd'hui même, une véritable interrogation sur le sens de la commémoration. Parce que, contrairement, vous voyez, à ce que je vous ai montré tout à l'heure, contrairement à Mercier, à Landowski, à Gertz, à Eisenman, finalement, la démarche de Koons, c'est de dissocier totalement l'objet prétexte par rapport à ce qu'il veut commémorer. C'est-à-dire, c'est plutôt une sorte de souci de se distancier complètement et de choisir la banalité, finalement, d'un geste de bouquet de fleurs, mais geste de bouquet de fleurs qui pourrait, si vous voulez, si, du point de vue de la signification, se comprendre de manière entièrement différente. Il y a pas, il y a un désir, je pense, chez lui, de rompre, encore une rupture, vous voyez, on va de rupture en rupture, finalement, dans cette histoire de la commémoration, hein. On va de rupture en rupture, on rompt déjà complètement avec la mimétique, et finalement, on rompt même avec l'idée que la sculpture abstraite soit le lieu d'une immersion ou d'une réflexion sur le sens profond de ce qu'on veut commémorer. Là, il y a une dissociation complète avec le sens. Et enfin, ma conclusion sera du côté de l'idée de la destruction. On érige et on détruit, parce que finalement, parler de statuaire et de politique, c'est aussi penser à tout ce qui arrive à cette statuaire urbaine. La statuaire urbaine n'est pas là pour l'éternité. Ce n'est pas l'art des musées. L'art des musées, on peut espérer qu'il soit là d'une manière totalement éternelle. En revanche, les statues sont mortelles. Les statues sont mortelles parce qu'elles sont dans l'espace urbain, justement. Alors, je reviens, hein, je reviens à la tête de la Marseillaise. C'était impensable, il y a quelques mois, qu'on puisse trouver ainsi ce moulage en tête de la Marseillaise, qui est fortement chargé de sens parce que c'est le moulage qui avait été fait pour l'exposition universelle de 1889, en même temps que la Tour Eiffel, et il était finalement à ce titre très précieux par rapport, vous voyez, au monument général, et encore, je ne vous montre pas l'état des tags, et finalement, eh bien, on voit qu'il y a une espèce d'incompréhension complète. Je vous le disais tout à l'heure, les Rude, quand il crée le départ des volontaires en 1792, il veut donner un message d'union pour défendre la patrie en danger au moment de la Révolution, au pire moment où la France est encerclée par les régimes monarchistes qui veulent absolument détruire la Révolution. Et finalement, vous voyez, eh bien, ce monument, il n'est plus compris. Il n'est plus compris, et je pense que ce qu'il a subi de terrible, c'est que justement, on a appelé cette femme la Marseillaise. C'est ça l'incompréhension, je pense. C'est que si on n'avait pas trouvé que ce visage était une icône, vous voyez, je parle évidemment du registre supérieur de la sculpture, où il y a cette allégorie de la victoire qui conduit ces hommes qui vont défendre justement la patrie en danger. Eh bien, elle s'est appelée la Marseillaise, et du coup, vous voyez, elle a été détournée de l'ensemble de sa signification politique, et il est arrivé cette chose. Le message politique, il peut être aussi complètement détourné pour des œuvres hyper connues, hyper consensuelles. La statue de la liberté, qui est, je crois, quand on interroge les gens, la statue la plus connue au monde. Hein. C'est l'œuvre sculptée la plus connue au monde. La statue de la liberté, qui est cet hommage rendu à la France par Bartholdi, pour justement témoigner du partage des idées de la Révolution française et d'une constitution entièrement démocratique. Bon, peut évidemment subir, je ne vous l'ai pas apporté, mais des quantités de caricatures qui montrent à quel point elle est finalement détournée de sa première fonction. Le triomphe de la République, de la place de la nation, qui là aussi fonctionne, si vous voulez, comme un repère ERE, hein, pour justement que les mouvements et que l'expression populaire s'organise. C'est une œuvre très intéressante parce que finalement, cette gloire de la République est une gloire d'une République en marche, d'une République instable. Regardez comment l'allégorie se situe finalement sur un dôme. Vous avez peut-être déjà essayé de marcher sur un ballon. C'est l'exercice le plus difficile de l'équilibre qui soit. Et finalement, cette République qui est accompagnée par le travailleur, je vous ai donné un détail du forgeron qui se trouve là, est une République qui se construit tout en marchant. Donc c'est exactement l'opposé de la figure stable de la place de la République, cette figure, au contraire, extrêmement massive et stable, qui indique justement le caractère intangible de la République. Dalou, lui, au contraire, a marqué finalement une espèce d'entrée dans Paris par un cortège qui cherche perpétuellement son équilibre, se renouvelle et sa rupture. Il faut dire que Dalou était un homme habité par des idéaux socialistes extrêmement forts et que justement son projet n'avait pas été admis pour la place de la République 10 ans précédemment. Je voudrais vous montrer aussi comment évolue l'hommage avec l'exemple de Champollion, vous voyez. Exemple de Champollion, ça me paraît un exemple intéressant parce que dans les années 30, en 32, année de la mort de Champollion, que fait sa ville natale? Eh bien, elle lui érige un monument extrêmement simple, une obélisque, avec, vous voyez, un certain nombre de bas-reliefs qui montrent la raison de la gloire de Champollion, le déchiffrement des hiéroglyphes, la pierre de Rosette, tout est clair. Et c'est finalement l'hommage au savant, mais qui n'est pas manifesté par une effigie. Plus tard dans le siècle, en 1975, Bartholdi fait un véritable portrait de Champollion, portrait qui aujourd'hui choque un certain nombre des Égyptiens, parce que vous voyez la position du pied. Hein. C'est un peu comme, vous savez, la manière dont on représentait, après les safaris, le pied de l'homme se reposant sur la dépouille du lion. Et donc, ce fragment archéologique ici est comme aujourd'hui perçu comme dans une optique de remise en cause des principes colonialistes et de l'expédition d'Égypte de Napoléon. C'est évidemment mal perçu d'un point de vue politique. Et que fait-on aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, Joseph Kossuth, pour renouveler complètement l'hommage rendu à Champollion, crée cette reproduction monumentale de la pierre de Rosette, reproduction monumentale par son format, inscrite dans l'espace toujours de Figeac, ville natale de Champollion. Et là, vous voyez, c'est la boucle est bouclée. C'est-à-dire, on en revient à la raison de l'hommage, Et la raison de l'hommage, c'est justement que grâce au déchiffrement de la pierre de Rosette, on a commencé à comprendre un peu mieux la civilisation égyptienne. Donc on met un coup de projecteur colossal, agrandi, hein, sur la véritable raison qui fait que, aujourd'hui encore, Champollion est vivant dans nos mémoires. Donc c'est comme si une boucle était bouclée. Vous voyez, la simplicité de l'hommage par l'obélisque au moment de la mort du grand homme, son effigie conquérante dans les années 75 et un siècle plus tard, un autre type de réflexion. Je voulais... Même genre, juste un écran pour vous parler de la manière dont on peut détourner les destructions. Vous avez à gauche, très vite, c'est comme un film, à Paris dans le 14e, un monument à Arago, au grand scientifique qu'était Arago. Arrive la guerre, 42, les fonds de Vichy, Arago est fondu, plus d'Arago. Le socle est vide. Et dans Paris, il est toujours comme ça, près d'Enfer Rocheron. Le socle est vide. Il reste vide très longtemps. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, un artiste contemporain qui s'appelle Yann Dibetz se dit qu'il va faire autre chose que de remplacer la statue. Parce que assez souvent, vous verrez dans les villes qu'il y a eu des remplacements. Et c'était tout à fait de bonne volonté. Le monument d'origine avait été détruit ou fondu. On demandait à un autre sculpteur de créer une nouvelle statue en hommage au grand homme. Là, que fait Dibetz? Dibetz va se dire, finalement, Arago a travaillé sur le méridien. Il a travaillé en scientifique. Il va créer ces petits médaillons, vous voyez là, qu'il va insérer dans le sol de Paris, selon, vous voyez, un méridien qui traverserait Paris du nord au sud, ici, et il va créer comme un petit pousset, vous savez, qui répandrait ces petits cailloux dans la forêt, il va créer une sorte de nouvelle manière de rendre hommage à Arago. Et vous voyez, là, quand on est dans ce café, par exemple, on en a un à gauche, au pied d'une table, et puis vous avez cette ligne. Donc c'est une espèce de reprise de l'hommage qui assume la destruction de la statue. Il ne s'agit pas de la remplacer, mais qui va créer une dynamique différente, inscrite dans la spatialité, inscrite dans la géographie, et placée très discrètement dans le paysage urbain. Donc la statue réinvestit le paysage urbain. Alors, ma conclusion ne sera pas très drôle, je voulais quand même vous parler des destructions et de leur sens politique. C'est-à-dire qu'on assiste, et je ne sais pas si à chaque fois vous percevez à quel point c'est intéressant aussi d'un point de vue artistique, parce que ça montre que la statue a toujours son rôle, et quand on l'érige, et quand on la détruit, dans la vie politique des hommes. Eh bien, je vous montre quelques images. Bagdad 2003, hein, le déboulonnage de la statue de Saddam Hussein. En Ukraine, récemment, le transport, vous voyez, d'une statue colossale de Lénine qu'on vient de déboulonner. Mais aussi, j'ai pas besoin de vous le dire, la désolante absence des Bouddhas de Bamiyan, hein, après mars 2001, le moment où ils ont été donc vandalisés, de la manière que vous savez. Et puis tout récemment, alors là, c'est pas la peine d'aller si loin, hein, tout récemment, j'ai, en préparant cette conférence, regardé un peu un fait divers. Il y a eu, il y a quelques mois, à Saint-Gaudens, eh bien, une sorte de décapitation symbolique de trois maréchaux, qui étaient Joffre, Gallieni et Foch, d'un monument qui, certes, n'avait pas une valeur esthétique aujourd'hui qui nous semblerait totalement renversante, mais qui était quand même inscrit dans l'espace urbain comme un monument d'hommage à ces trois généraux de la guerre de 14. Donc l'incompréhensible décapitation, l'incompréhensible vandalisme qui a eu lieu il y a quelques mois à peine, donc, ces trois maréchaux. Parfois, vous voyez, ce que je terminerai là-dessus, parfois le sens est clair, le sens de la destruction, le sens de la construction. Parfois, il faut admettre qu'il y a des choses qui nous échappent et que la vie comme la mort de la statue est un phénomène qui peut encore attirer quelques interrogations. Voilà, je vous remercie. Et bien sûr, si on peut prendre un petit petit moment pour un dialogue, des questions. Je ne sais pas s'il faut que je fasse passer le micro dans la salle. Je descends de mon perchoir, là.
Merci. Tout d'abord, je voudrais avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé pour la tête de la Marseillaise. Elle a été fracturée, enfin très abîmée, et il est question actuellement, on la répare. Ils sont en train de la réparer. Et moi, je me demande si c'est pas une mauvaise chose, parce que du coup, elle sera plus aussi vraie qu'avant, c'était un moulage de Ronin, ou l'autre, je pense. De Rude, excusez-moi. Et finalement, aujourd'hui, en fait, une sorte de monument à la bêtise, enfin, un symbole de la bêtise, de tout ce qu'on appelle ça comme on veut, je pense que ce serait peut-être une meilleure idée que de la restaurer. Ça, c'est une première remarque. Je dirais ce que vous en pensez, vous pouvez vraiment pas être d'accord. Et la deuxième chose, c'est une question que je vous pose, c'est-à-dire le fameux bouquet de tulipes de Jeff Koons, où en est-il? Parce que je crois qu'il y avait un mouvement très très opposé. Moi, je trouve ça plutôt une bonne idée de l'accepter, mais peu importe. Je crois que c'était un don à la ville de Paris. Donc là, dites-nous où on en est de cette
question. Oui, alors, je peux répondre très, très, très brièvement à la deuxième question. Il est accepté, il sera au Petit Palais de Paris, enfin, dans les jardins du Petit Palais. Donc le don à la ville de Paris a été accepté. C'était un don un peu compliqué parce qu'il était en fait assorti de dépenses. Enfin, c'est un don qui suppose quand même beaucoup de dépenses pour l'installation, etc. Voilà. Il ne sera pas installé dans l'endroit où on avait premièrement pensé le mettre, parce que là, vraiment, il y avait un choc esthétique qui aurait été préjudiciable, si vous voulez, à l'ensemble très cohérent qui est celui du Palais de Tokyo. Voilà. Réparer ou ne pas réparer, c'est compliqué, parce que si on se mettait à ne pas réparer tous les dommages qui sont faits pour des raisons diverses dans l'espace urbain, il y a des cas où on a souhaité laisser des monuments en ruine. Il y a des cas très significatifs, en particulier à Berlin, ou dans d'autres villes, hein, où on a laissé notamment des éléments d'architecture très forts pour entretenir la mémoire. Est-ce qu'il était nécessaire d'entretenir la mémoire par... Je ne suis pas sûre que c'était si nécessaire que ça. Je pense que la réparation n'est pas une mauvaise chose, personnellement. Mais voilà. Mais c'est tout personnel. Je comprends très bien le raisonnement. Là. Je vous ai assommé.
C'est des anarchistes qui voulaient protester par rapport aux actions militaires qu'il y avait eu et aux morts qui avaient été fusillés en 17 aussi. Donc on a mis d'un. Moi, ce que je voudrais dire à titre personnel par rapport à ça, c'est que j'ai une vision de l'histoire où, quelle que soit la personne qui a commis des actes avec le recul historique qu'on juge négatif, à partir du moment où existe un élément historique mémoriel, il est important de le garder. Moi, je mets au même niveau cette photo que vous avez choisie là, celle où on voit Lénine qui disparaît aussi. Ouais. C'est des conceptions historiques où on efface des éléments d'histoire. Bon, ce qui ne porte pas du jugement sur la détérioration, l'élimination, je l'entends politiquement, mais je ne la comprends pas en tant qu'on veut effacer un élément d'histoire.
Je comprends
bien. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire que cet élément-là s'inscrit dans la même démarche qu'il y avait eu sur enlever les statues de Staline ou d'Hussein.
Mon point de vue là-dessus est un tout petit peu différent. Je pense que effacer des éléments d'histoire, c'est de toute façon une très très grave erreur. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Simplement, la statuaire en place publique, c'est pas un livre d'histoire. Ça a toujours, c'est quand même fait. Le mobilier urbain, il n'est pas fait pour l'éternité. Il est fait pour être là ou pour être ailleurs. Je pense qu'il faut admettre qu'une ville évolue. Alors, Il y a évidemment des actes de vandalisme, et le vandalisme est toujours quelque chose de troublant. Néanmoins, moi, comme historienne de la sculpture, je vais peut-être vous choquer, mais ça me plaît assez que ce soit des anarchistes qui aient mutilé ce monument, parce qu'au moins, il y avait une idée derrière. Il y avait quelque chose... Ça veut dire que la statue... Attendez, je vous explique juste. Ça veut dire que la statue représentait quelque chose pour eux. Alors, je regrette le vandalisme, mais je me dis que ça veut dire que la statue avait encore du sens... et il s'exprimait dans cette idée. Ce que je pense, malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais je suis presque sûre que dans la détérioration de la Marseillaise, il n'y avait pas de sens. Je pense qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, je veux dire, et qu'ils l'ont peut-être regretté d'ailleurs. Parce que ça, c'était, je veux dire, ça, tandis que ça, mais bien que ce soit une vandalisme, ça a du sens. Oui. Après tout, qu'un anarchiste dise. Qu'il est contre la guerre, oui, ça fait partie de
la... Mais je vous suis totalement, hein, parce que je pense qu'on a des gens qui sont acculturés au moment où ils détruisent ça. Ouais. Alors que là, on a des choses inacceptables aussi, puis moi je dis en termes de conservation, mais qu'on peut entendre.
Bon, alors après ça, quand une œuvre est menacée, il faut simplement la déplacer. Je veux dire, il y a quelque chose... Alors moi, en revanche, ce qui me déprime, c'est le traitement qu'on inflige justement à la République de Maurice, de la place de la République... qui a été entièrement restauré, qui est entouré, quand on la regarde de près, d'admirables bandeaux de relief, qui sont comme une histoire de France en images. C'est un monument très intéressant. Et à peine on avait fini une très belle restauration, très coûteuse en plus, qu'elle est complètement détériorée. Alors finalement, je me dis, mais pourquoi pas dans ce cas-là, enlever les originaux, les mettre quelque part, on les protège, et laisser un lieu qui a besoin d'être un lieu de rassemblement. Mais si vous voulez, l'acharnement sur certaines statues, qui sont en plus d'une grande valeur, est quand même un peu décourageant. Alors c'est vrai que, là où je me rends bien compte qu'il y a un curseur subjectif, c'est quand je dis d'une grande valeur et pas d'une grande valeur. C'est vrai que malheureusement, on n'est pas ému de la même manière quand est attaquer un Rodin ou un Rude qu'une œuvre très secondaire quand même pour l'esthétique. Bon, cela étant, je suppose que pour les habitants de Saint-Gaudens, il y a un choc. Il y a un choc évident à se réveiller et à voir les statues décapitées. Donc voilà, il a beaucoup de sens aussi de les réparer. Alors là la réparation s'impose.
Par rapport à ce que vous disiez, moi, il me semble essentiel que sur l'espace public, on peut déplacer les œuvres, mais ne pas les détruire. Le problème est là. On a toujours la capacité de les mettre dans des musées ou dans d'autres choses, plutôt que dans des réserves. L'urbanité, c'est aussi le changement. C'est accepter qu'il y ait des
périodes. Il y a un changement. Et je pense que dans certains pays, comme la Corée du Nord, par exemple, où il y a une statue publique omniprésente et répétitive. Le président est édifié, il paraît que dans chaque village, il y a qu'il y a un besoin, un jour ou l'autre, de destruction, vous savez, symboliquement, c'est comme une catharsis, quoi. C'est un truc de catharsis. On détruit pour se libérer d'une oppression. Parce que, vous voyez, la statue peut aussi, surtout colossale, être visiblement une incarnation de l'oppression. C'est un instrument, plus que la peinture. La sculpture, c'est fascinant parce que c'est justement c'est facilement instrumentalisé. C'est pour ça que c'est un objet complexe. C'est un objet esthétique. On peut très bien passer complètement à côté de cette question-là. Mais vous savez d'ailleurs, c'est curieux parce qu'il y a des historiens et des grands historiens. Il y en a un que j'ai connu qui est Maurice Agulon, que j'ai eu la chance de croiser quand j'étais plus jeune, qui lui s'intéressait à la statuaire publique uniquement en historien. Et il disait, je laisserai les analyses esthétiques à d'autres. Et de même, il y a des historiens de l'art qui vont faire de l'analyse formelle, en se fichant pas mal de l'impact sociétal de l'œuvre. Donc ce qui est bien avec l'art, c'est que tout le monde peut l'étudier de son point de vue, finalement. Vous allez avoir aussi des chimistes qui vont vous étudier du bronze en étudiant uniquement la dégradation du bronze ou, je ne sais pas moi, les brillettes qui s'introduisent dans une statue en bois. Il y a une pluralité de regards, sans compter bien sûr la philosophie, la littérature, etc. Ça, c'est une grande joie quand même, de pouvoir se confronter à d'autres regards.
Je voudrais juste signaler quelque chose, mais je ne suis pas bien informée. Mais comme on a parlé des statues qui se déplaçaient, Nous sommes à Avignon, dans une ville où on a déplacé une statue importante, volumineuse, qui est passée de la place de l'horloge et qui se trouve maintenant sur les allées de l'eau. Je ne sais pas si quelqu'un peut en parler, mais alors je ne sais pas non plus quel sens on peut interpréter, de quelle façon on peut interpréter ce déménagement. Il y a sans doute une raison.
Il y a eu un double déménagement par rapport à cette statue. Elle a été protégée par rapport aux Allemands qui voulaient la fondre à un moment donné. Et après, il y a eu la rénovation, justement, qui s'est faite. Et on a mis dans une réserve la statue. Et c'est à l'époque, dans les années 90, qu'il y avait une municipalité de gauche qui a décidé de la sortir de la réserve pour aller la mettre. Elle n'est pas partie d'un lieu exposé, elle est partie d'une réserve pour être installée, en fin de compte, à un endroit qui soit visible, qui est sur les allées de Loulou. Et qui symbolise justement le rattachement d'Avignon et de toute cette région à la France. Mais bon, c'est en deux temps. D'accord. Ça rentre dans votre conférence, justement, le fait qu'on a détruit, et que bon, certains ont essayé de protéger, qu'on a fait aussi à déplacer.
Voilà, que ce soit vraiment du mobilier urbain, justement, de l'art qui est du mobilier urbain, c'est sûr.
Et à un moment donné, le préfet de Vaucluse aurait aimé la mettre dans la nouvelle préfecture.
Oui, tout à fait.
C'est un cadre qui s'est embrouillé, c'est l'ancienne caserne. Mais ça aurait coûté cher de la redémonter.
Pour
le
la propriété intellectuelle. Alors, c'est complexe, un droit de protection de l'œuvre d'art, et c'est surtout complexe quand l'œuvre est multiple. Donc il y a des règles très précises pour la gravure, pour la sculpture, des règles assez arbitraires d'ailleurs, pour vous dire, parce que vous voyez, quand on va chez le fondeur, encore aujourd'hui, le musée Rodin vit du droit moral de Rodin. Hein, c'est un musée qui n'a, je vous donne cet exemple, mais c'est assez amusant parce qu'il ne touche aucune subvention de l'État, il vit tout seul, en vendant, évidemment, par le droit d'entrée des visiteurs, mais aussi en vendant des bronzes. Sauf que ça s'arrête à 12 exemplaires. Donc vous avez 12 Balzac, 12 penseurs, 12 qui se baladent partout. Enfin, le 13e, il vaut énormément moins, parce qu'il a fallu fixer une règle. Donc c'est vrai que voilà, ça fait partie de ces choses. Alors la propriété intellectuelle, c'est clair que... vous pensez par exemple à Yann Dibetz avec ses petits jetons. Ben, ces jetons, par exemple, ça s'abîme dans Paris. On voit que de temps en temps, tiens, il y en a un de moins. Et donc, on en remet. Donc, je suppose qu'il y a une espèce de convention très précise entre la ville et l'artiste qui veut que jusqu'à un certain nombre de, même si ce n'est pas artistiquement lui qui les fait, parce que le geste, il n'y a pas de geste de sculpteur. C'est vraiment l'idée. Vous voyez, c'est l'idée qui est finalement brevetée, en quelque sorte. Et c'est souvent le cas maintenant, aujourd'hui, avec... qu'est-ce qui reste d'une performance ? Il reste la conception de la performance. Il reste le dessin préparatoire. Mais la performance elle-même, elle est complètement fugace, finalement. Donc, je ne connais pas... Il faudrait se poser des règles très précises, mais je crois que tout est contractualisé, en fait. Maintenant, on est dans une époque qui contractualise à outrance, même. Monsieur.
Est-ce qu'à votre époque... Vous connaissez des municipalités qui continuent de demander des sculptures à des artistes. Est-ce que le mouvement...
Oui, absolument.
Est-ce qu'il y a un grand projet ?
Absolument. Il y a encore des commandes d'artistes. Il y a des commandes de municipalités et des sculpteurs. Et là, je vais vous faire rire, et ce n'est pas du tout pour revenir à l'actualité, mais en particulier pour les ronds-points. Mais c'est vrai, hein, depuis 15 ans, 20 ans, il y avait énormément de sculptures sur les ronds-points. Dans une région qui m'est chère et qui est très loin d'ici, qui est le Cotentin, près de Cherbourg, vous voyez, rien à voir, hein, il y a eu une série de commandes en granit, de sculptures en granit, qui est la pierre locale, si vous voulez. À chaque rond-point, il y avait une sculpture animalière en granit, etc. Mais le rond-point est un lieu qui est habité, pas seulement, mais beaucoup par la sculpture. Si, si, si. Et il y a des villes encore qui commandent, oui, à des artistes contemporains.
Pour en revenir au débat racine sur la sculpture, est-ce que vous ne pensez pas que justement ce principe même d'une certaine lecture de l'histoire, d'une certaine affirmation d'une histoire et d'une société pour très souvent bourgeoise et parfaitement installée, qui cherche à mettre en avant ou à confirmer sa position dans l'espace public, qui autorise, qui pourrait justifier de telles dégradations par un rejet cette méthode d'endoctrinement, enfin de...
Si, si, vous avez sans doute raison, mais on, vous savez, pour se détacher des événements quotidiens et contemporains, on peut pas, enfin, moi je pense que beaucoup de choses s'expliquent par la récupération politique de la stature urbaine et son usage politique. Je vous donne un exemple qui est vraiment beaucoup plus ancien. Napoléon Bonaparte fait construire la colonne Vendôme. Bon, vous voyez tous la colonne Vendôme. Colonne avec, qui ressemble un peu sur le modèle de la Trajane à Rome, hein, avec un enroulement de bas-relief qui a la gloire de la Grande Armée, et puis tout en haut, lui. Et lui, en empereur romain, en toge, donc divinisé en quelque sorte. 1815 arrive, fin de l'Empire, Louis XVIII, qu'est-ce qu'il fait? Il démolit pas la colonne, mais il vire Napoléon. Et il met une grosse fleur de lys, ça on a oublié ça. Il y a eu pendant quelque temps une grosse fleur de lys à la place. Mais, vous voyez, récupération sans vouloir totalement s'aliéner les grognards qui en pouvaient bien. Arrive Louis-Philippe. Cette fleur de lys, ça ne lui allait pas du tout. Réconciliation nationale, il veut se concilier un peu tout le monde, il fait revenir les cendres, vous savez, de Napoléon, il achève l'Arc de Triomphe de l'Étoile, et il commande à un autre sculpteur, qui s'appelle Sœur, un Napoléon, qui va remonter sur la colonne Vendôme, mais attention, pas un empereur romain. Ça serait trop, ça. En costume contemporain. Petite nuance, mais qui n'échappe à personne à l'époque. Hein. Donc Napoléon n'est plus divinisé. C'est juste un grand chef militaire, un quelqu'un qui à un moment, a eu un rôle important dans l'histoire de France. Bon. Et puis, ça, c'était pas fini l'histoire. Ça paraît pas... Arrive Napoléon III, le neveu, qui, lui, cherche quand même sa propre légitimité de sa descendance. Il fait descendre le Napoléon III. Et il demande à un autre sculpteur de refaire un Napoléon en empereur romain. Donc c'est plus le Nemo du début dont le bronze a servi à faire Henri IV, tout un micmac. Et ça se termine comment, vous le savez, à la Commune. Alors là, à la Commune, on renverse la colonne elle-même. On renverse la colonne Vendôme. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dès que le gouvernement de la Commune prend ses marques, ça a été très court, hein, eh bien, c'est ce gouvernement-là qui prend la décision de la remonter, la colonne Vendôme. Alors, sans plus personne au-dessus, mais qui prend la décision de la remonter. Donc, vous voyez, c'est une histoire incroyable parce qu'elle n'arrête pas d'avoir des remous. Et on voit bien comment cette malheureuse colonne, elle est vraiment... le politique s'en empare et on tord le truc dans un sens et dans l'autre. C'est très intéressant. Et en fait, si on compare à ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de parallélisme, me semble-t-il. La vie tumultueuse de la colonne. On pourrait faire un petit...
On va regarder tout le
Et bien voilà, c'est gagné. Et bien très bonne soirée à tous. Merci.